pour les chants. C'était béni. Tournez avec moi dans l'Évangile. Je souhaite bienvenue à ma chère maman et à Gérard qui sont avec nous. C'est très précieux. On va aller dîner ensemble. Je suis content. Je vais voir mes deux parents aujourd'hui. On va aller manger ensemble. Puis après ça, je m'en vais à Granby. Je vais voir mon père. Fait que je vais être un fils béni pour la première journée de mes vacances avec Stéphanie. Donc, Jean chapitre 4. On va lire, ça va être les passages du verset 16 jusqu'au verset 26. On va les lire au fur et à mesure de mon message. Ouais. Bon, ne te range pas. Ouais. Merci, Ben. On va les lire au fur et à mesure. Jean 4. J'espère que ça marche bien à Saint-Michel, puis Sylvain, que vous êtes connecté, parce que là, c'était moi qui improvisais un petit peu. Juliane et Stéphane étaient en mission aujourd'hui à Victoriaville pour quelque chose qui avait sur leur cœur. Fait que je suis content que ça allait marcher, ce projet-là. Ceux qui étaient à réunion de prière, ils savent de quoi que je parle. Seigneur, merci pour ce temps où nous ouvrons nos cœurs, Seigneur, à ta parole, Seigneur. Que notre cœur soit comme une feuille blanche sur laquelle tu as décidé d'écrire. Qu'il y a de la place sur la feuille. Seigneur, on te permet de parler sur n'importe quoi. Un petit peu comme la femme samaritaine qui était au puits, Seigneur, que tu lui as parlé sur sa vie personnelle. Tu lui as parlé sur sa culture. Tu lui as parlé sur la manière dont elle avait été élevée. Tu lui as parlé des choses de Dieu. Trouve dans notre cœur, Seigneur, cette humilité, Seigneur, qu'on a tant besoin. Au nom de Jésus, amen. Donc, la femme samaritaine, c'est mon deuxième message. La dernière fois, on a parlé un petit peu plus de la rencontre de Jésus avec cette femme-là au puits. Puis, on a vu que Jésus a brisé plusieurs règles sociales de son temps en s'adressant à une dame, en plus une non-juive qui était samaritaine. Puis en plus, il a bu dans sa cruche, puis on avait vu qu'il y avait toute cette idée de même la salive. Il ne fallait pas toucher à la salive d'un ennemi d'Israël. Les Samaritains étaient considérés comme des ennemis du peuple d'Israël. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer un petit peu plus avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé durant la discussion que Jésus a eue avec la Samaritaine? Premièrement, le Seigneur, là, il lui dit, « Va chercher ton mari, puis reviens me voir. » Mais il dit, Jésus va finalement, dans la discussion, lui faire rendre compte que c'est vrai, t'es pas marié. T'as eu 5 maris, mais celui avec lequel tu es, ben t'es pas marié avec. Puis cette femme-là, on a vu qu'elle venait puiser de l'eau sur l'heure du midi, plutôt qu'au début de la journée, quand il fait pas encore assez chaud, parce qu'il y a personne qui y va. C'était probablement un embarras pour elle, tu sais, c'est parce qu'on se rappelle que le puits, c'est un lieu de rassemblement social, comme les bars le sont plus aujourd'hui. Mais elle venait toute seule, elle était peut-être un peu à l'écart de son peuple, parce qu'elle avait brisé déjà une règle sociale qui disait qu'une femme ne devrait pas se marier plus que 3 fois. Même si c'était un deuil, même si c'était quelqu'un qui s'était fait tromper, tout ça, on disait, tu sais, fait qu'il y a, elle était là sur l'heure du midi, puis Jésus disait, « Moi, je vais te donner un eau là que si tu la bois, tu n'auras plus jamais soif. » Elle a dit, elle a fini par dire, « Ben donne-moi de cette eau-là que je ne sois pas obligé de revenir ici encore. Tu » sais. Fait que le Seigneur, il facilite un petit peu le choix. Tu sais. Il essaie d'y donner une autre option. Mais là, quand il lui dit, « Tu as eu 5 maris, mais celui avec qui tu es, là, ben tu le connais pas. Excuse-moi, c'est une autre phrase qui va venir plus tard, ça. Le gars avec qui tu es, c'est pas ton mari. Là, elle fait comme, oh, je vois que tu es prophète. Elle le reconnaît comme un prophète. On va regarder un petit peu la prophétie aujourd'hui. Ça va être intéressant de voir un petit peu comment le Seigneur travaille avec la prophétie. Donc, les passages. Ah oui, as-tu quelqu'un qui peut aller sur l'ordi puis aller cliquer sur le bouton Admit? Est-ce quelqu'un qui peut faire ça pour moi? Vous n'êtes pas obligé d'être spécialiste, Ben. Même toi, tu qualifies pour ça. Ouais, je te dis. Ben, admit. A-D-M-I-T. OK? Ben, c'est pas sur Cast Out. Fait qu'on va attendre le loup, là. Juste pour que le loup puisse profiter aussi. Ouais, puis on va voir si Ben fait bien ça. Leur dit Ben, leur dit de droite. Numéro 2, leur dit de droite, souris avec fil. On va l'avoir.
Oh yes! Ouais!
Excellent. Ça va être la même affaire pour les autres fois qu'il va y avoir quelqu'un qui a besoin de se faire admettre. J'avais oublié cette chose-là. Donc, un jour, une femme marche dans le centre-ville de Victoriaville. Elle marche, mais avant d'aller au centre-ville, elle s'en va dans un restaurant manger son dernier repas. Son instrument de suicide est déjà monté. Elle a planifié de s'enlever la vie cette journée-là. Elle s'en va au restaurant pour la dernière fois, mange un dernier repas. Puis elle regarde le monde qui rit, qui sourit. Puis dans sa tête, elle est choquée après eux autres. Puis elle se dit, pourquoi ils rient eux autres? Il n'y a pas de raison de rire. La vie ne vaut pas la peine, tu sais, de rire. Puis il n'y a rien qui... La vie est difficile. En fait, le soleil est noir pour cette personne-là. Les pissenlits sont noirs, tout est noir dans sa tête. Puis elle va prendre une dernière marche au centre-ville. Puis elle rencontre des chrétiens de notre assemblée qui passait, savez-vous quoi, un bonhomme sourire. Le geste en lui-même, il était anodin, mais dans ce moment-là, il était prophétique parce que c'était ça qu'elle se disait dans sa tête. Elle dit, il n'y a rien qui vaut la peine de sourire. Puis en plus, le gars lui dit, lisez ça, madame, vous allez sourire pour le reste de votre vie. Puis il donne ça. Elle est comme... Il a utilisé les mots qu'il avait dans sa tête. Hein? Un peu comme Nathaniel qui était là sous le figuier. Puis Jésus dit, hey, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et les Juifs allaient sous les figuiers pour apprendre des versets par cœur. Puis les versets que Jésus parle, ça semble être les versets que Nathaniel mémorisait. Et ça l'a comme, ben, lui, juste ça, il a dit, hey, t'es le Seigneur, le Messie d'Israël. Tu sais. Puis là, il y a cette femme-là qui a eu 5 maris. Puis celui-là, avec lequel elle est, c'est pas son mari. Et là, elle est interpellée par le fait qu'elle est connue de la part de ce gars-là, de cet étranger-là, d'un gars qui n'est pas supposé de le connaître. C'est un juif, il ne vit pas au village de Samarie. Puis cette femme-là qui marchait dans la rue de Victoriaville, elle est retournée chez elle, puis elle a reçu une invitation pour venir à l'église, puis elle est venue. Après ça, elle est toujours allée à l'église. Puis là, elle écoutait la parole. C'est elle qui a fait les résumés longtemps de nos messages sur Internet. Puis elle était dans la parole, puis elle aimait la parole de Dieu, puis elle aime encore la parole de Dieu, puis elle va encore dans une église aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui arrive quand ces choses-là se passent? La personne devient très attentive tout d'un coup. Quelqu'un a stoulé ma situation. Fait que là, la personne, elle devient très attentive. Alors, on va regarder un peu la prophétie ce matin parce que ça va nous aider à comprendre comment le Seigneur peut agir avec la prophétie. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Donc, tu arrives, toi, dans une église, ça parle de l'église. Donc, il y a quelqu'un qui vient parler ses offrandes, plus il dit... Il dit juste comme une parole comme ça, ou il y a quelqu'un d'autre qui vient parler, il vient donner son témoignage de vie, ou quelqu'un d'autre prie dans l'assemblée. Puis il dit des mots que tu avais dans ta tête quand tu t'es emmené à l'église ce matin. T'sais. Fait que là, tu fais comme, aïe, il y a un stool dans la pièce. T'sais. Puis des fois, les gens sont choqués parce qu'ils se disent qu'il y a quelqu'un qui est allé le dire au pasteur ou à la personne qui partageait, puis tout ça. Puis quand ils se rendent compte que, tu les connais pas, tu n'as pas rien su, toi tu ne savais pas, tu as parlé comme ça, tu sais. Là, ils sont touchés, puis là, ils veulent écouter davantage. Ils sont jugés par tous dans le sens de discerner par tous. Puis quand les gens parlent, souvent, ils ne savent pas que ça s'adresse à toi, mais toi, tu sais que ça s'adresse à toi. La parole devient de plus en plus personnelle, puis là, tu t'aperçois que Dieu te connaît, que Dieu a une parole pour toi dans la Bible, puis que tu devrais porter attention au message de la Bible. Donc, le don de prophétie, c'est qu'est-ce que c'est dans le Nouveau Testament? Il y avait l'Ancien Testament, mais on va se concentrer un peu plus sur le Nouveau parce que c'est dans le Nouveau qu'on comprend ce qui est dans l'Ancien aussi beaucoup. Mais Dieu entend vos paroles dans la chambre à coucher ou vos pensées les plus intimes et à un certain moment, vous réalisez que la personne raconte quelque chose que seul vous connaissez. Parfois, bon, c'est ça. Donc, la prophétie, c'est quoi dans le Nouveau Testament? C'est annoncer des choses cachées. Ça peut être des choses que Dieu avait pas révélées avant. Donc, le Nouveau Testament est un écrit de prophétie dans le sens que le Nouveau Testament repose sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Donc, dans le temps qu'on n'avait pas toute la révélation écrite, il y avait un ministère d'établir quelle était la vérité de Dieu. Et Dieu se servait des prophètes pour faire connaître sa pensée. Puis, à un moment donné, on a eu le Nouveau Testament. Donc, on pourrait dire qu'aujourd'hui, l'Église repose sur les prophètes du Nouveau Testament. Mais à un moment donné, il y avait aussi annoncé des affaires à venir. C'était caché. Donc, quand ce n'est pas encore arrivé, c'est à venir. Donc, c'est caché. Ce n'est pas tout le monde qui voit le futur. Hein. Ces prophètes-là disaient, par exemple, à l'apôtre Paul, qu'est-ce qui arriverait s'il allait à Rome? On allait l'attacher. Puis là, il y a un gars, il s'appelle Agabus, il met une ceinture autour de Paul. Puis il dit, c'est de même qu'on va t'attacher. C'est comme ça que tu vas mourir. Puis, il y en a d'autres qui ont annoncé une famine aussi. Donc, des choses qui sont annoncées. C'est caché pour le moment, on ne le sait pas, mais ces gens-là, Dieu les a utilisés pour nous annoncer des choses qui étaient pour arriver prochainement. Mais des fois, c'est pour révéler des choses cachées dans le cœur. Et là, ça fait ça. Ça fait ce que Paul raconte, qu'est-ce qui se passe dans une église. Cette femme-là a eu 5 maris. Celui avec lequel elle est, ce n'est pas son mari. Et là, elle le reconnaît comme un prophète, et c'est important ici, elle ne le reconnaît pas comme le prophète, mais elle le reconnaît comme un prophète. Pourquoi c'est important, le prophète? C'est que chez les Samaritains et chez les Juifs, on croyait au Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres. T'es rendu où là, Suzy Kim? Exode? Non. Page 150, ça dit. Donne-moi un numéro de page. T'as eu Genèse, Exode, Nombre. Fait que tu as fait au moins Exode, puis tu es rendu dans Nombre. Donc, encore 2 autres livres après ça, les 5 premiers livres du Nouveau Testament. Ce sont le Pentateuque, puis les Samaritains l'avaient accepté, ces premiers. Puis ils disaient que leur prophète, eux, c'était Moïse. Et dans Deutéronome 18, il y avait cette prophétie, après qu'il y a eu la montagne en feu, là, puis que Moïse ait vu les commandements, là, Moïse a dit, c'est-tu possible la prochaine fois que tu nous parles de passer par un autre chemin? Parce que c'est terrifiant. La montagne en feu au complet, là, c'était terrifiant. Fait que Dieu il répond, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fais à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'Assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. » Donc, c'était une vision terrifiante qu'il avait vue sur la montagne en feu. Il avait dit, la prochaine fois que tu nous parles, ça pourrait être autrement. Et je vais vous susciter un prophète. Le prophète. Et donc, les Juifs, autant que les Samaritains, attendaient le prophète avec un grand P, mais elle le voit juste comme un prophète. J'aimerais que vous voyez la discussion qui évolue. Au début, un Juif ne parle pas avec une Samaritaine. Elle le voit comme un vulgaire Juif. Puis plus qu'ils parlent ensemble, bien là, elle l'appelle, « Serais-tu pas un prophète? » Puis plus tard, elle va dire, est-ce que ce ne serait pas le Messie? Donc, il y a vraiment une évolution. Puis là, on est rendu dans cette histoire-là où, ils viennent d'y parler de sa vie personnelle. Puis qu'est-ce qui arrive quand on parle de votre vie personnelle puis que ça ne vous tente pas d'aller là? Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On fait comme un chien. On se gratte la tête. On fait du déplacement. Qu'est-ce qu'on fait? On change de sujet. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle change de sujet. C'est ce qu'elle va faire parce que c'est ce qu'on fait souvent, nous autres aussi, quand ça devient un petit peu trop personnel. On change de sujet. Alors, elle dit ceci. Elle dit, « Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est Jérusalem. » Ah, c'est intéressant. Dans un mercredi qu'on a étudié ensemble, on a étudié que Dieu avait choisi de mettre son nom en Israël et il avait choisi la ville de Jérusalem pour mettre son temple. Puis, on a vu comment c'était. Dieu avait choisi le mont de Morija, le même mont où Abraham avait sacrifié son fils, mais finalement, il n'avait pas sacrifié parce que Dieu avait fourni un sacrifice à sa place. Sur cette même montagne, Dieu a choisi la ville de Jérusalem, puis c'était sa ville pour mourir. Donc, c'est lui qui aurait été le fils qui n'a pas été sauvé. Là. Il a vraiment donné sa vie là. Mais en fait, Jérusalem, ville de paix, c'était la ville que Dieu avait choisie. Et là, Elle dit, ouais, mais nous autres, les Samaritains, là, moi, mes ancêtres, là, ils en ont une croyance, là, mes ancêtres, là, c'est important aussi, tu sais, si on est élevé, hein, souvent vous allez entendre ça, j'ai été élevé d'une telle manière, ben je vais rester de telle manière, tu sais, fait que c'est fort au Québec de dire, j'ai été élevé d'une manière catholique, puis tu sais, je vais rester catholique, tu sais, des fois tu parles un peu du Seigneur, puis les gens disent, ah, ben, j'ai été élevé catholique, je vais rester catholique, tu sais. Ben elle, on pourrait dire qu'elle a dit, c'est un peu comme ça disait au Seigneur, tu sais, j'ai été élevée samaritaine. Là. Puis nous autres, on adore sur le mont Gérazim, puis vous, vous adorez sur le mont à Jérusalem. Et là, c'est important de comprendre, puis Ben, il l'a fait la semaine passée, mais au nord, il y a 10 tribus, puis au sud, il y a Juda et Benjamin, les deux tribus du sud. Et en 722 avant Jésus-Christ, les 10 tribus du nord ont été amenées en captivité par l'Assyrie et ne sont jamais revenues. On appelle le nord les 10 tribus perdues d'Israël. Elles ne sont pas revenues dans leur territoire. Mais un peu comme un envahisseur, qu'est-ce qu'il fait l'envahisseur? Il va prendre les ressources du pays, il va venir s'installer dans le pays, il va l'appeler de sa langue, de sa culture. Eh bien, les Assyriens sont descendus puis ont rempli le nord de l'Israël. Et là, donc, il y avait des nouvelles dialectes, il y avait aussi leurs dieux. Ils ont amené leurs dieux avec eux, les dieux de leur père. Et là, ils ont ajouté l'Éternel comme étant un des dieux auxquels on pouvait prier. Là, c'était plus juste Dieu et le seul Dieu. C'était rendu Dieu et les dieux de leur père. Et donc, ils adoraient le Dieu d'Israël, mais ils adoraient aussi le Dieu de leurs ancêtres. Puis Jésus va rectifier parce qu'elle a dit, « Nos pères ont adoré et vous, regardez ici, c'est vous et nous. Hein? » Donc, il y a les Samaritains et les Juifs. Puis Jésus va rectifier. Il va lui dire, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous, toujours le « nous » et le « vous » ici, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Dans l'Évangile de Jean, Jésus n'y va pas de main morte pour les Juifs. Il vient de renverser les tables du temple, vous rappelez-vous? Il a fait des fouets. Il a chassé les vendeurs du temple, il a demandé à sortir les oiseaux qui étaient dans les cages. Il a vraiment fait du ménage dans sa maison. Fait qu'il n'a pas été une main morte, même avec le peuple juif, mais il ne leur reproche pas de ne pas connaître, mais peut-être de ne pas expérimenter Dieu. À Nicodème, il va dire, tu es docteur en Israël, tu ne sais pas ces choses. Il va lui dire, comment ça, tu ne comprends pas que le Saint-Esprit doit venir, tu sais? Mais à elle, il lui dit, écoute, il va rectifier, puis dans le fond, il va lui dire qu'elle n'adore pas le bon Dieu. Son adoration n'est pas bonne. Tu dis, aïe, aïe. Pourtant, elle a le goût d'adorer le Dieu d'Israël. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, Jésus n'y va pas de main morte avec elle. Puis c'est important de comprendre que Jésus va venir mettre en lumière ce qui ne fonctionne pas dans notre relation avec la divinité. OK? À cause de comment on a appris Dieu, comment on a pratiqué la religion avant de venir à lui, il va venir toucher à cette corde-là, puis il va venir pointer des coutumes, des pratiques qui nuisent là à la réception de l'Évangile ou à la réception de la bonne nouvelle que Jésus veut nous donner. Cette femme-là, elle, revenir à la discussion, puis je vais reparler un petit peu de ce qui ne marche pas dans notre adoration envers Dieu que Jésus vient mettre en lumière. Cette femme-là, elle va au puits sur l'heure du midi, et là, Jésus vient de lui montrer des choses dans sa vie, et là, elle devient à l'écoute un petit peu plus. Puis là, il dit, l'heure vient. Et il prophétise un événement à venir. L'heure vient. Ça aussi, c'est de la prophétie. Il est en train de dire, il y a quelque chose qui va arriver bientôt, que les gens, ils vont pas adorer ni sur la montagne-là, ni sur la montagne-là. Et là, Jésus amène quelque chose de nouveau. Et cet événement-là qu'il annonce est arrivé entre 66 et 70 de notre ère. Il y a eu un million et demi de Juifs qui se sont... Dans le fond, les Romains sont descendus puis ils ont complètement détruit la ville. Puis il y a à peu près 1 million de personnes qui sont mortes là, mais le temple a été détruit là. Donc le temple, c'est plus au temple de Jérusalem que les Juifs y vont adorer. C'est terminé. Mais il s'est passé quelque chose 30 ans avant. Quand Jésus est mort sur la croix, le rideau du temple qui faisait quasiment un pied de profond, qui était cousu, c'était des pièces de carré à peu près de cette grosseur-là, il s'est déchiré du haut vers le bas. Puis avant, ce qu'il y avait derrière le rideau, c'était juste la place du grand prêtre. Puis c'est là qu'on faisait le sacrifice pour les péchés du peuple, qu'on appelait le sacrifice pascal, qu'on faisait à Pâques. Mais là, Jésus était le sacrifice pour les péchés du monde. Fait que maintenant, on n'a plus besoin d'aller dans un temple pour le prier, pour l'adorer. On peut l'adorer ici à Davaloisville, en esprit et en vérité. C'est-à-dire, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire en esprit et en vérité. Fait que, il lui dit, eux autres, ils ont parlé de leur père. OK? Elle dit nos pères. Mais lui, il va lui parler de son père. Donc, ton père ou ta mère, ta grand-mère faisait ça comme ça, mais le père te demande de le faire comme ça. C'est ça l'esprit du texte ici. C'est vraiment Jésus qui dit, oui, papa, maman, oui, grand-papa, grand-maman, oui, mes ancêtres au Québec ou dans ma culture québécoise ou autochtone, tu me parlais de la culture, tu sais, de... des belles choses dans la culture. Tu me parlais aussi du culte aux ancêtres ou cette prière aux ancêtres. Donc, une croyance, des croyances de mes ancêtres. Fait que là, il dit, il y a vos ancêtres, mais il y a mon Père. Voici ce que Dieu, mon Père, demande comme adoration. C'est une adoration en esprit et en vérité. Dans le grec... c'est un endiadis et ça veut dire que ça parle d'une et une même chose. Donc, vous adorerez en esprit et en vérité. Ça ferait référence à Dieu dans les deux cas. Pas nous. J'ai souvent enseigné, moi, je peux adorer Dieu dans mon esprit. Ce serait mon esprit humain. Mais ici, ça parle plus du fait que Dieu est esprit. Et que, oubliez pas, dans ce temps-là, là, on allait mettre nos mains sur des statues, on avait des statuettes, puis ces statuettes-là représentaient la divinité. On pouvait mettre de la nourriture devant, il y avait plein de choses qu'on pouvait faire. Donc, il y a toute cette idée du corporel, là, c'est quoi qui s'était passé, même en Israël, quand que Dieu était sur la montagne en feu, les gens avaient fait fondre leur boucle d'oreille pour se faire un dieu, tu sais. Fait qu'il y avait beaucoup cette idée que voici le Dieu qui t'a délivré de l'Égypte. Tu sais, voici cette idole-là, c'est Dieu. Tu sais. Nous autres, on n'a pas ben ça, des statues, tu sais, qu'on va dire que ça, c'est notre Dieu. Mais des fois, tu vas voir des gens aller mettre leurs mains sur une statue d'un saint, par exemple. Puis ils vont mettre la main sur un ancêtre ou sur la statue d'un ancêtre. Puis ils vont attendre une bénédiction en retour. Et c'est ça, Jésus ici dit, le Père, il veut une adoration non corporelle, c'est-à-dire, c'est pas la manière que tu vas te placer, mais c'est pas dans le lieu dans lequel tu vas aller qui compte, puis c'est pas dans quel confessionnal tu vas aller ou dans quel statut que tu vas toucher ou quel porte-bonheur tu vas avoir. Ça sera pas physique, la chose. Ça va être une relation avec Dieu parce que Dieu est esprit et non pas matériel. La seule chose qui a été matérielle, c'est Dieu le Fils, Jésus, qui a dit « Détruisez ce temple, puis le troisième jour, je vais le rebâtir » en parlant de son propre corps. Lui, il était Dieu fait chair, il était Dieu en personne. C'est pour ça que quand on se prosternait devant lui, quand il avait fait une guérison, Jésus ne disait pas « Arrête de m'adorer, tu adoreras Dieu lui seul. » Pourquoi? Parce que Jésus était adoré, parce qu'il était Dieu, tu sais. Donc, le Père demande, et sa demande est prioritaire sur comment j'ai été élevé, et comment que moi, j'ai vu mes parents, grands-parents ou mes ancêtres adorer. Jésus, il est plus grand qu'un temple dans lequel il est prié. Puis encore, il ne met pas autant d'emphase sur la posture, par exemple. Tu sais, la posture, tu sais. l'habillement ou le lieu dans lequel je vais. C'est pas ça. Oui, il dit à un moment donné, quand tu pries, tu sais, va dans ta chambre, ferme la porte. Mais ça, c'est parce qu'on aime ça, nous autres, faire savoir aux autres qu'on a prié. T'sais. Moi, je suis un homme de prière. T'sais. Fait que Jésus dit, hey, si tu veux faire ça, c'est pas de la prière, tu as déjà eu ta récompense, tu as fait ton spectacle, tout le monde sont contents, ils t'applaudissent, bravo, bravo, tu as eu ta récompense, il n'y aura rien pour toi rendu au ciel parce que tu l'as déjà eu ta récompense. Donc, la ville dans laquelle on adore, hey, il faut aller à l'église de Davelouville parce que c'est là que Dieu est. Des fois, j'aimerais ça que les gens pensent ça, il y aurait peut-être plus de monde. Après ça, on enlèverait ce mensonge-là, là, quand il serait fidèle. Là, tu sais. C'est une blague. Pourquoi est-ce que l'aspect vérité est important? Puis je dirais qu'en 2022, pour nous autres, ce n'est pas la petite statue qu'on fait devant. Ce n'est pas ça vraiment qui nous affecte. Nous, c'est la vérité. Hein? On est dans l'ère du bricolage post-moderne. Qu'est-ce que ça veut dire, le bricolage? Pensez-y un petit peu. Bricolage. On prend deux affaires qui ne vont pas ensemble. On les colle ensemble. Ça fait quelque chose de beau. Hein? Il y en a qui sont forts en art plastique ici. Hein? Font toutes sortes de choses avec leurs mains. Fait que des fois, c'est le fun de dire, hey, prendre quelque chose qui était destiné aux déchets, puis t'en refais quelque chose qui est wow, puis même vendable, tu sais. Mais quand vient le domaine de la vérité, de la croyance en Dieu, dans les années 2001, il y a ce terme-là qui a été inventé, on pourrait dire du bricolage post-moderne. Qu'est-ce que ça veut dire? On vient au buffet. Hein? Ça nous donne un peu de ça. Donne-moi un petit peu de ah oui, réincarnation, ça me plaît ça. Mène ça dans mon plateau. Puis, Jésus qui aime tout le monde, ça me plaît. Ah, l'enfer, non. Non, ça, tu peux enlever ça. Non. Ça ici, se faire lire aux cartes, oh bon, pourquoi pas? Ça fait-tu de mal à quelqu'un? Fait que là, on prend ça. On met ça dans notre cabaret, puis on s'en va au buffet de la vie, puis de la croyance, puis là, on mange ça, puis on est persuadé qu'on adore Dieu quand on fait ça. Et alors que ce sont ce que nos pères ont fait, ce sont ce que nos ancêtres, ce sont ce que notre culture a fait, mais ici, qu'est-ce qui arrive? Cette partie-là ici, ça veut dire qu'on est peut-être en train d'adorer, pas Dieu, mais un Dieu que nous nous sommes faits. Avec notre vérité, notre propre vérité. Le postmodernisme, qu'est-ce qu'il dit? Puis c'est en train de passer. Mais ce que ça dit, c'est qu'il n'y en a pas de vérité. Chacun a sa petite vérité. Alors que Dieu, il s'est révélé. Puis il a dit qui il était. C'est à nous de le connaître. Puis il dit, les Samaritains, vous ne le connaissez pas. Nous, on adore, en parlant des Juifs, on adore celui qu'on connaît. Mais vous, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Quand on passe par une statue, un porte-bonheur ou n'importe quoi d'autre pour aller à Dieu, tu sais, souvent dans un service funéraire, c'est « parlez-y, il est proche de vous ». On parle avec les morts. La Bible a dit, elle interdit formellement, elle dit, c'est une abomination que commettent les nations que j'ai chassées devant vous. Mais c'est cute. T'sais. Ça réconforte parce qu'on va parler à un mort. T'sais. Comme ça, il va être proche de nous. On ne sera pas obligé de le perdre, finalement. Il y a toute cette idée du deuil qui n'est pas fait. On ajoute un mensonge là-dessus. Puis la Bible a dit ceci, elle dit, « Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. » Un médiateur ou une médiation, c'est de passer par quelque chose. Tu sais, si j'ai communiqué avec toi par courriel, on va dire que ma médiation est un courriel, quand on va à Dieu, c'est par Jésus-Christ. Puis il y a un seul chemin. Puis Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pas une vérité. La vérité, il y a un seul médiateur entre nous. Et là, c'est incroyable, mais on a besoin, nous aussi, de revenir puis dire, ouais, OK, ça se peut que mon adoration ici, elle ait besoin d'éducation. J'ai besoin d'être éduqué. Puis le Messie, ou pas le Messie, mais le prophète était supposé de venir puis le répondre, tu sais, puis les enseigner. La prière aux morts. La prière aux morts, c'est quelque chose qui est fort. Puis si vous allez en Amérique du Sud, c'est encore pire parce que là, eux autres, il y avait les Mayas, il y avait toute cette idée-là de parler, de célébrer les morts, puis même tuer les bébés. Puis tu sais, tu vois beaucoup de squelettes là sur les gilets puis sur les emblèmes. Fait que je parlais avec quelqu'un qui vient du Guatemala, puis il dit 90% ce sont des Mayas. Fait que c'est certain que l'Église catholique, quand elle rentre en Amérique du Sud ou quand elle est rentrée, admettons, il y a certains pays que j'ai notés ici, des pays, comment qu'ils les appelaient eux autres, des pays celtiques. On croyait que le 2 novembre, les morts venaient nous rejoindre chez nous, là, tu sais. Fait qu'il y avait un petit peu une trouille, là, tu sais. Fait que toute l'idée de l'Halloween, là, dans ce temps-là, elle vient de, dans le fond, ce que les chrétiens ont fait. Dans ce temps-là, ils ont dit comment on pourrait les faire changer d'idée par rapport au fait que les morts viennent les visiter. Mais on va faire la journée de la Toussaint. Toussaint, vous mettez tous et saint, vous les mettez ensemble, ça fait le mot Toussaint. C'est la journée de tous les saints. Et on a dit cette journée-là que c'était une journée dédiée aux morts pour les invoquer, pour leur parler. Là, on a ajouté dans le christianisme la prière aux morts. Mais on voulait faire oublier le 2 novembre qui était mon oncle Jean-Claude va ressusciter pour venir te hanter, tu sais. Puis là, ben la veille, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la veille, c'est All O's Eve, ça veut dire la veille des orioles en français là, fait que c'est l'Halloween. All O's Eve, c'est ce qui est juste avant l'Halloween. Dans le fond, nous on a transformé ce mot-là pour Halloween, mais l'idée c'était encore une fois de la veille, parce que dans les fêtes, souvent, les fêtes chrétiennes, il y a la Pâque, il y a la veille de la Pâque, là, il y avait la Toussaint, puis il y avait la veille de la Toussaint, dans le fond. Puis c'est pour ça que souvent, on voit justement les morts vivants, les zombies, puis tout ça, parce que ça vient de toute cette culture-là, tu sais. Fait qu'on a fait ce qu'on appelle du syncrétisme. Je ne sais pas si moi, ça serait là ou plus tard, mais on va revenir un peu à ce qui nous intéresse d'abord. Puis je le verrai tantôt si je l'avais mis à quelque part, cette histoire-là. Ah, c'est plus tard. Donc, ce qui nous intéresse, l'adoration qui est demandée par le Père doit être en esprit et en vérité. Elle ne doit pas passer par la médiation, par un objet, une position physique, une personne que tu rentres dans un petit cubicule en bois pour passer par un intermédiaire autre physiquement que la personne de Jésus. Qui est Dieu qui a été fait chair. Okay? Elle ne doit pas non plus être faite avec des accumulations de traditions et de croyances. On appelle ça le syncrétisme. Le petit Robert définit le syncrétisme comme une combinaison de doctrines et de systèmes initialement incompatibles. Donc le christianisme puis le nouvel âge, ça ne va pas ensemble. Mais il y en a qui sont chrétiens puis ils croient, par exemple, qu'on est tous des dieux. Il y en a qui vont croire qu'on est chrétien sauvé par Jésus, mais qu'on va se réincarner. Il y en a qui vont continuer à se faire lire aux cartes. Il y en a qui continuent à croire à des points d'énergie au milieu du corps, qui représentent le serpent ancien. Il y a toutes ces vieilles croyances qu'on a amenées avec nous, puis Jésus dit non, ça va pas ensemble. Le syncrétisme, puis c'est fort au Québec, c'est vraiment fort, puis c'est fort où il y a eu beaucoup de sorcellerie aussi, comme en Amérique du Sud, par exemple, ou en Afrique aussi. Bricolage. On a pris des choses, on les a brisées, on a pris ce qui ressemble ensemble, puis on les a collés ensemble, puis on a fait du bricolage spirituel. Puis ça, c'est pas selon la vérité, c'est selon ce qu'on veut pas abandonner de nos anciennes croyances qui sont pas en accord avec la Bible ou les enseignements du Nouveau Testament. Ce sont des croyances inventées, les Samaritains, c'est ce qu'ils avaient. Ils adoraient le Dieu d'Israël, mais ils adoraient aussi les dieux des Assyriens. Hein? Savez-vous que pendant des centaines d'années, on appelle en anglais « the Dark Age », qui est aujourd'hui, nous en français, le Moyen Âge, la lecture de la Bible était interdite. Celui qui disait l'Église la disait derrière un rideau de bois, en latin, face dos au mur. Alors là, en plus, il fallait comprendre le latin. Ça, c'était réservé pour les éduqués seulement. Connaissez-vous le latin? Gang d'incultes. Alors, blablabla, il faisait sa messe, puis là, tout le monde, le petit peuple, là, tu sais, le petit peuple, ceux qui connaissent pas, ceux qui sont pas éduqués, ben, eux autres, il fallait qu'ils fassent confiance, tu sais. Puis on leur disait, la Bible dit que c'est ça, la Bible dit que c'est ça. Fait qu'on a eu, avant l'imprimerie, avant qu'on puisse imprimer ce livre-là puis le distribuer, en passant, c'est les chrétiens qui sont à l'origine, en 1532, de l'imprimerie parce qu'on voulait faire des tracks d'évangélisation, parce qu'on se dit on ne pourra pas faire toute la Bible, c'est bien trop long. Fait qu'on faisait des tracks, puis là, on distribuait ça. Puis là, les petits peuples pouvaient lire la Bible dans leur langue. Puis là, ils s'apercevaient que, puis il s'était ajouté des croyances. On avait ajouté des saints, mon ami, là-dedans. Je viens souvent, mais nous autres, on a un saint à la maison, c'est Saint-Joseph de Padoue. Bon, c'est Steph, dans le fond, qui trouve les objets perdus. Et Steph, elle a tellement une mémoire visuelle là, que j'ai dit, elle est rendue au bureau, puis j'ai dit, t'as-tu vu mon portefeuille? Elle rentre dans sa tête. Oui, il est sur le meuble de pépin à l'entrée de la... Tu es prophète! Moi, j'oublie presque rien. Fait que j'ai pas besoin. La semaine passée, je suis venu ici. Vendredi, je suis venu faire pour aider le déménagement. Puis je prends les clés de la boîte à clés. Je trouve la boîte à clés. Je prends la clé pour aller de l'autre côté. Je déborde la porte de l'autre côté. Là, je m'en viens pour repartir sur l'heure du midi. Mais pas de clé de char. Ah, sont sur la boîte à clés. Fait que, ah, ben oui, j'ai les clés aussi qu'il fallait que je remette dans la boîte à clés. Fait que, c'est moi le responsable des clés à l'église en face. Je suis revenu mettre les clés, puis là, je peux m'en aller. Fait que là, je repars avec ma clé qui était après la boîte à clés. Elle m'a fait rappeler. Puis là, quand je suis allé à mon véhicule, dans le fond, le lendemain, je suis revenu. On a passé une partie de la journée ici. Puis je lui ai dit, la clé là, qui était sur la poignée là, pour aller l'autre bord, là. C'est-tu Ben ou Gilles qui m'a dit ça? Ben, j'ai dit, ouais, ça me dit quelque chose, ça. Ben, finalement, j'avais laissé la clé là la veille, tu sais. En tout cas, vos biens sont sécurs avec moi. Mais j'ai besoin de ma femme, ben gros, pour retrouver les objets perdus. C'est, en gros, c'est ça le résumé. Mais non, c'est ça, on ajoute des saints. Un saint pour la maladie, un saint pour ci, un saint pour ça. C'est bien commode, t'sais. On a notre petit panier à herbes. Comme là, l'après-midi, je m'en vais voir mon père, puis lui, il s'est fait un jardin avec des herbes médicinales, puis toutes sortes de plantes, puis tout ça. Il dit qu'il y a 14 sortes de tomates, tout ça. Fait que, tu sais, c'est correct, tu sais, d'avoir plein de semences dans son jardin. C'est beau, ça sent bon, tout ça, mais pas dans le jardin de la foi. Dans le jardin de la foi, le Créateur demande un type d'adoration. Puis lui, il vient arracher dans le pot de mes prières. Il dit, ça, là, c'est une croyance qui appartient à l'ancienne vie, à l'ancien monde. Puis, puisque tu es mon enfant, ben je vais te dire que tu adores ce que tu comprends pas ou de ce que tu connais pas. Puis il dit à la femme, t'adores ce que tu ne comprends pas. L'ange noir. Il y a plusieurs peuples qui justifient encore, sont chrétiens, mais ils justifient encore le culte de la terre-mère. Pourquoi? Ben, tu sais, dans le fond, Dieu, c'est qui a enfanté Adam? C'est qui a enfanté Adam? Ouais, puis la mère, c'est qui? Ben, c'est ça. Mais ils vont dire que Dieu a soufflé, puis qu'il y a la terre. Tu sais, il y a eu la terre, qu'il l'a faite avec la terre. Puis, intéressant, ça vaudrait la peine d'observer ça comme il faut, parce que Dieu n'a jamais fait tout seul. Il a dit que l'eau produise des poissons, que la terre produise des animaux et l'homme. Il n'a jamais dit que ça arrive, paf. Il a toujours créé avec un médium. Un médium, puis la terre, bien, c'est l'homme a été créé à partir de la terre, puis la femme à partir de l'homme. En tout cas, c'est intéressant quand même, mais il y a plusieurs, justement, du syncrétisme. C'est qu'on a dit dans Genèse 3.15 qu'elle lui écrasera la tête du serpent. Fait qu'ils savent, eux autres, que la terre-mère va régner. Eux autres, ils pensent que c'est la terre-mère. Maintenant, c'est la femme qui, un jour, va enfanter le Messie. Puis elle va vaincre le malin en enfantant le Messie. Trois ans après que Paul ait enseigné... je vais juste regarder mon heure pour le fun. Parce qu'il est 6h moins quart. Sur l'horloge. J'ai jusqu'à midi, donc encore 6h. On a du lousse! 3 ans après, l'apôtre Paul faisait des cours bibliques le matin, le soir. Il n'y avait pas Netflix dans ce temps-là. Tu t'écoutais le poste qu'il y avait. Puis il enseignait le matin, 2-3 heures le soir. Il enseignait le matin et le soir. Et regardez ce qui s'est passé après ces 3 années à l'Éphèse. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Un certain nombre d'entre eux qui avaient exercé les arts magiques ont apporté leurs livres, les ont brûlés devant tout le monde et on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Il y avait une puissance et que les gens disaient « non, c'est mal ça ». On a adoré d'autres dieux, c'est mal. On a fait de la magie, de l'art magique, c'est mal. On renonce à ces choses-là, puis en plus, on amène ça au milieu du village comme étant sans valeur, puis on se fait un feu de joie avec ça. C'est ça. Puis c'est écrit, la parole, elle croissait en puissance. Pourquoi? Parce que c'était pas juste une petite vérité qu'on a pris au buffet de la croyance. C'était quelque chose qui dirigeait toute ma vie, puis je renonçais à des choses qui étaient mauvaises, des mauvaises croyances que j'avais eues dans le passé. Je mettais ça de côté, je faisais un feu de joie avec ça. Je dis, garde, Seigneur, merci. Je me rappelle de Solange qui a dit, j'ai mis les saints dans un tiroir. Elle a arraché ses colliers, ses petites affaires, toutes ces brimbales là, de crucifix. Même elle, pour elle, elle pensait que c'était là, tu sais, en tout cas, tout ce qui représentait les saints, peut-être pas le crucifix, mais je me rappelle qu'elle a fait la... Elle a ouvert le tiroir, puis elle leur a souhaité une très belle journée, puis elle a refermé ça. Hein? Puis elle était un peu... Faut pas adorer autre chose que Jésus, là! Tu sais? Puis elle te pognait quelqu'un des fois, puis tu sais, c'est Jésus! Mais c'était un peu son tempérament qui était comme ça. Mais en tout cas, tu peux le faire pour ta propre vie, puis dire, « Hey, Seigneur, oui, j'ai exercé des choses qui... je m'aperçois que, oui, déjà, c'était de parler à des esprits. J'ai fait ça. J'ai fait... peu importe quel genre d'incantation, n'importe quoi. Je renonce à ça, Seigneur, au nom de Jésus. Je renonce à ça. Puis si j'ai donné du pouvoir à l'ennemi sur ma vie parce que j'ai fait ces choses-là, si j'ai consulté une diseuse de bonne aventure ou des gens qui évoquent les morts, je dois le dire au Seigneur. Seigneur, je reconnais que c'est mal ce que j'ai fait et je renonce à cette chose-là. Maintenant, je vais prier au nom de Jésus-Christ. Puis si tu veux, tu vas répondre à mes prières. Une fois, il y a un gars qui vient me voir et dit, moi, j'ai un don de guérir les malades. Si jamais tu veux, tu peux me le dire, tu sais, puis je vais imposer les mains aux membres de ton église. Tu sais. Puis lui avait accepté le Seigneur avec nous autres. On donnait des cours chez eux. Puis j'ai dit... Nous autres, on croit à la prière, puis on croit que c'est Dieu qui donne des guérisons. Il ne donne pas le don de guérir, il donne des guérisons. Dans le grec, c'est vraiment écrit qu'il donne des guérisons. Donc, je crois que Dieu peut guérir les membres de notre Église par réponse à la prière. Puis je crois aussi à l'onction d'huile au nom de Jésus par les anciens d'une Église. Le reste, je te dirais que tu joues dans... Il appelait ça le Reiki. C'est une canalisation des esprits morts, des vies passées, pour appliquer des guérisons à des gens dans le moment présent. Fait que j'y ai dit, je te demanderais d'attendre puis de prier le Seigneur. Demande au Seigneur qui te montre si ça, ça vient vraiment de lui. Puis on va laisser ça là-dessus. Fait que je l'ai revu peut-être un mois plus tard dans ma formation de disciple. Et il dit, c'est drôle, il dit, j'entends. Il dit, ça sonne l'autre côté de la rue, je les entends dans ma cuisine. Il dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, d'après moi, on te vend un rêve, on te vend une puissance, quelque chose. Parce que, tu sais, on est dans un monde démoniaque, puis les démons se parlent entre eux autres. Fait que savoir ce qui se passe l'autre côté de la rue, ça ne m'impressionne pas du tout. Ou quelqu'un qui dit de la bonne aventure, la personne dit de la bonne aventure, le démon, il est là dans la pièce, puis il fait arriver la chose qui a été dite dans la salle. Fait que ça m'impressionne pas non plus qu'une personne dise la bonne aventure puis il y a des choses qui arrivent pareil. Mais je crois quand même qu'il y a des limites parce qu'il y aurait plus de 10 heures de bonne aventure qu'il y aurait gagné au 649 depuis le temps. Je crois quand même à une certaine limite dans ce don-là. En tout cas, tout ça pour dire que dans la formation de disciples, il arrive un moment où tu dis, écoute, ça, la Bible a dit que c'est une abomination de parler aux morts. Fait que toi, tu me dis que c'est Dieu qui t'a donné ce don-là. Fait qu'il faut faire un bris. Enlever un bout, puis faire un collage, faire un bricolage spirituel. Puis je pense que adorer Dieu en esprit en vérité, on ne devrait pas faire ça. Donc, les gens brûlent leurs livres. La femme samaritaine était confrontée dans son arrière-plan. Qu'est-ce qui est arrivé là? Quand il dit « vous adorez pas, c'est la bonne montagne », qu'est-ce qui arrive quand ça devient trop personnel? On change de sujet. Alors, on va aller voir qu'est-ce que la femme lui répond quand Jésus lui dit que c'est pas bon, qu'est-ce qu'elle croit. La femme, elle lui répond, et lui, il vient de dire, qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Il a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alors, sur quelle base qu'elle embarque? Ben, moi, je sais. Donc, encore sur la base de ce qu'elle connaît, hein. Fait qu'elle dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ, et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle.
Ouf!
Je le suis, moi qui te parle. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville. Jésus vient de dire qu'ils adorent ce qu'ils ignorent, et elle répond, je sais, je sais. Toi, tu ne connais rien, toi, tu es un prophète, là, tu sais. Mais le Messie, par exemple. Lui, quand il va venir. Lui, là. Il va nous enseigner toutes choses. Puis Dieu avait dit, je vous enverrai un prophète comme Moïse et il vous répondra. Okay? Donc, dans la tête d'un Samaritain, il y avait cette idée que quand le Messie viendrait, il nous enseignerait, il nous répondrait. Tu sais. Mais chez les Juifs, on n'attendait pas un Messie qui viendrait nous parler. On attendait un Messie qui, quoi? Venait nous délivrer de l'Empire romain, le Poutine de dans le temps, le conquérant qu'on veut juste repousser, là, tu sais, là. Fait qu'il y avait cette idée de il va venir, là, puis on veut pas savoir ce qu'il enseigne, on veut juste qu'il nous délivre du peuple romain. Tandis qu'elle a dit, il nous enseignera toutes choses. Dans toutes les quatre évangiles, c'est la seule place que Jésus révèle qu'il est le Messie. Il dit pas quand il est avec les Juifs qu'il est le Messie. Il dit à ses disciples, qui dit-on que je suis? Il fait des énigmes, mais il dit pas. Parce qu'il sait qu'eux autres, ils attendent pas quelqu'un qui les enseigne, ils attendent quelqu'un qui règne. Mais elle a dit, ah, il va venir, lui, puis il va nous enseigner. Ah ouais, ben je le suis, moi qui te parle. Et là, Jésus, il révèle qui est son Messie, qui est son Sauveur. Puis là, elle va laisser ses cruches-là. Puis la fille qui a eu mal parce qu'elle s'est fait percer son secret, elle était confortable parce qu'elle n'avait plus besoin de le cacher. Elle est allée dans le village, puis elle est allée dire quoi? Allez voir cet homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. La fille qui vient le midi parce qu'elle veut pas être avec personne, elle s'en va dans le village, puis elle dit, venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? Belle histoire, hein? C'est une très belle histoire. Mais elle ne le reconnaît pas comme le Messie. Elle dit, le Messie va venir. Puis quand il va venir, il va nous enseigner toutes choses. Elle ne le reconnaît pas comme le prophète, mais comme un prophète. Mais là, Jésus lui dit qu'il est le Messie qu'elle attend. Elle s'en retourne en ville, puis dans deux semaines, quand je vais enseigner à nouveau, je vais parler des Samaritains qui sont venus, puis les disciples qui sont surpris de le voir parler avec une femme samaritaine. Ce message, je trouve que ce passage de l'Évangile dans l'Évangile de Jean nous montre que Jésus, là, il n'y a pas de... Peu importe si une personne a adoré Bouddha, Krishna, peu importe le passé religieux d'une personne, si une personne est prête à se laisser enseigner, si elle est prête à ouvrir son oreille, que ce soit un juif ou un non-juif, Jésus va se révéler à eux, puis même peut-être même plus encore que ceux qui pensent l'avoir. T'sais. On a vu dans un message récemment qu'un des grands obstacles à l'Évangile, c'est la présomption. La présomption, c'est penser savoir, penser connaître, alors qu'on n'a pas et on ne sait pas. Nicodème faisait partie de ça. Cette femme-là, elle essaie de sauver de toutes sortes de manières. C'est pas sur cette montagne-là, hein, tu sais, change de sujet de place, Jésus ramène, vous adorez ce que vous connaissez pas, tu sais. Aïe, 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 elle détourne le sujet tout le temps. Le Messie, lui, il sait, tu sais, ah ben je le suis, moi qui te parle. C'est quand même pas le choix, je pense que... Puis l'histoire a fini vraiment belle dans cette histoire-là, comparativement à Nicodème, où c'est dans la nuit, tout finit comme avec... un discours, puis on ne voit pas ce qui est arrivé avec Nicodème. Elle, on voit qu'elle va chercher son village, puis les gens du village viennent. T'sais. Puis il y a vraiment un réveil, puis c'est spécial parce que c'est un réveil qui représente l'Église, ça représente la communauté, puis ce n'est pas chez les Juifs qu'il a obtenu ça. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais les Samaritains, qui étaient ennemis du peuple de Juifs, eux autres, ils étaient tout croches dans leur croyance, mais ils ont cru. Ça me fait penser à Jonas qui s'en va à Ninive, tu sais, puis qui annonce qu'il va avoir un jugement, tu sais. Puis eux autres, ils attachent leur, tu sais, ils nourrissent pas leurs animaux. Puis là, les animaux pendant une journée, ils ont pas mangé. Puis là, ils commencent à beugler. Puis Là, ils disent, « Ah, Seigneur, aie pitié de nous, on a péché, c'est mal qu'est-ce qu'on a fait. » Puis Dieu dit qu'il s'est repenti du jugement qui était supposé de tomber sur cette nation-là parce qu'ils étaient répréhensibles, ils tuaient leurs enfants, ils les mangeaient presque, on pourrait dire. Non, mais ils offraient au dieu Moloch, il y avait vraiment des... c'était un dieu, c'est une statue en forme de... Il y avait comme une grande bouche, là, puis il y avait un feu. Puis ils les envoyaient au feu, roulaient au feu, tu sais. Puis ils couchaient avec d'autres... Les gens couchaient ensemble, il y avait des bébés avec Artemis, je ne donnerai pas le nom de la divinité, mais il y avait cette idée-là de paganisme où on avait des enfants qu'on ne voulait pas avoir, puis qu'on les envoyait dans la gueule de Moloch, etc. Mais, ils se sont repentis. Ils étaient reprochables, puis on dit, on a eu tort. Puis en Israël, ben, il n'y avait pas ça, cette idée, hey, le Messie va venir, il va nous enseigner, tu sais, puis... Ah, c'est intéressant. J'ai bien aimé mon étude. Seigneur, je te remercie pour ce message, cette parole, Seigneur. Peu importe comment il aurait été amené, là, il est amené sous forme de message, mais merci pour Jean 4. Merci que tu t'es laissé trouver par une femme, même si ça sauvait, tu jouais un petit peu aux échecs avec elle. Tu l'as amené dans un coin, puis là, tu l'as mis échec et mat. Tu lui as dit, c'est moi le roi. Tu as aussi fait tomber plusieurs de ses pions, plusieurs de ses petites cachettes dans lesquelles elle se cachait. Tu es allé faire tomber plusieurs des fous, des pions. Puis tu l'as amené échec et mat, mais pas pour... Quand tu fais ça, Seigneur Dieu, c'est pas pour nous condamner que tu fais ça. Tu fais ça parce que tu veux qu'on ait une véritable relation avec toi, basée sur la vérité. Hey, merci qu'on peut aujourd'hui, on n'est pas obligé d'aller à Jérusalem pour pouvoir prier le Dieu des cieux. On peut être sa toilette, puis on peut prier le Dieu des cieux. On peut être en auto, on peut être malade dans un lit d'hôpital. On n'a pas besoin d'aller à quelque part ou rencontrer qui que ce soit pour avoir un médiateur entre nous et toi. Puisque Jésus est ressuscité d'entre les morts, il est notre médiateur pour aller à Dieu. Ce matin, alors que je termine mon message, on est enregistré, on est sur Internet. Il y a aussi des gens qui nous suivent en ligne. J'aimerais simplement offrir la possibilité à chaque personne qui écoute ou qui écoutera ce message plus tard de comprendre qui est Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Jésus, c'est Dieu qui est venu vivre comme un homme. Il a eu faim, il a eu soif. Il est capable de souffrir. Puis il est venu nous montrer qui était Dieu. Pourquoi est-ce qu'il est venu, Jésus? Il est venu parce que on a péché. Puis nos péchés ont offensé Dieu. On a mis une séparation entre nous et lui. Et ça l'a mis une séparation d'un tel point que si on meurt dans cet état-là de pécheur, eh bien, on va aller dans ce qu'on appelle l'enfer ou le lac de feu pour l'éternité séparée d'un Dieu qui nous aime pourtant. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu et il s'est laissé punir comme un coupable. Mais lui, il n'avait pas péché. Mais il a donné sa vie en rançon pour tous. Il a été frappé, puni. Et c'était pour nos péchés qu'il a été frappé. Il a été enseveli, on l'a mis dans un tombeau. Puis le troisième jour, il est ressuscité des morts. Puis aujourd'hui, il offre la vie éternelle à quiconque veut. Pour Dieu, si tu acceptes que Jésus a été frappé pour tes péchés, c'est comme si c'est toi qui avais été puni. C'est comme si c'est toi qui avais payé la facture. Mais c'est Jésus-Christ qui l'a payé. La seule chose que tu as à faire, c'est de comprendre que Jésus t'aime, qu'il est mort sur la croix pour toi, qu'il est Dieu, et que tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour te donner la vie éternelle. La majorité des gens pensent qu'ils sont des bonnes personnes, puis que s'ils font pas trop de mal à son prochain, ils vont aller au ciel. Et ça, c'est pas la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est une fausse croyance qui souvent nous a été inculquée que si on suivait les commandements, on devrait pas avoir de problème. Mais la Bible dit qu'on a péché, puis peu importe le bien qu'on fait, on est coupable devant Dieu, puis on a besoin d'être pardonné. Alors, cette fausse croyance-là, il faut l'abandonner. Si on pense qu'on est des bonnes personnes puis que Dieu va nous accepter, c'est une fausse croyance qui nous empêche d'avoir la vie éternelle. Il faut reconnaître qu'on est pauvre sans lui puis qu'on ne peut pas se sauver soi-même. Alors, cette fausse croyance-là, si tu es prêt à la laisser tomber, ah, il y en a d'autres qui disent, ah, moi, j'ai souffert toute ma vie, là, j'ai assez payé, là, je pense que là. Ah, ça, c'est une fausse croyance. Il faut que tu l'abandonnes. Tu ne peux pas payer par tes souffrances. Ce n'est pas ça que la Bible enseigne. Ah, il y en a d'autres qui disent, ah, non, mais Dieu, c'est un Dieu d'amour, là, quand même, l'enfer, ça ne peut pas exister. Il faut que tu abandonnes cette croyance-là. C'est une fausse croyance. De toute façon, si l'enfer n'existe pas, Jésus est mort pour rien. Parce que c'est pour nous sauver de l'enfer et du paiement éternel de nos péchés qu'il est mort. Donc, s'il n'y a pas d'enfer, la croix n'a aucun sens. Fait qu'il faut abandonner cette croyance-là puis dire avec humilité que je suis un petit casse à hélice puis que moi non plus, je ne comprends pas tout. Mais ça se pourrait que Dieu sache qu'est-ce qu'il fait quand il me parle de l'enfer. J'ai de la misère avec ça. C'est dur de penser que des gens vont souffrir pour l'éternité alors que Dieu nous aime. J'ai de la misère avec ça. T'es mieux d'avoir une lutte avec Dieu que de dire que Dieu ne peut pas avoir fait l'enfer puis de créer un Dieu à ta propre image. Il faut abandonner des fausses croyances pour venir à Jésus. Mais si c'est vrai que l'enfer existe puis que Jésus ne veut pas qu'on aille là, eh bien, il a porté ta punition sur la croix pour que tu ne sois pas puni avec lui. Alors, si quelqu'un voudrait faire cette prière-là pour accepter Jésus comme son sauveur, je vais vous guider comment la faire. On va dire tout simplement ce que je viens de dire. D'abord, il faut que vous croyiez qu'il est le Dieu envoyé sur terre, qu'il était sans péché et qu'il a été puni à votre place, qu'il a été enseveli et enterré, puis le troisième jour, il est ressuscité pour vous donner la vie éternelle. Alors, priez avec moi, répétez avec moi. On va la faire à voix haute pour vous accompagner, au cas où vous le feriez avec nous, juste par geste de courtoisie. Ce n'est pas une prière qu'on fait tout le temps, on la fait une seule fois, mais on peut la faire à voix haute en geste de courtoisie pour accompagner. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es Dieu, que tu es venu sur la terre, tu étais sans péché, tu es mort sur la croix, pour être puni à ma place. Je le crois et je l'accepte. Je crois que tu es ressuscité des morts pour me donner la vie éternelle. Viens dans mon cœur et sauve-moi. Amen. Super, je suis content d'avoir entendu plein de belles voix comme ça qui confessent le nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut finir avec un chant? On avait-tu un chant pour ça? Oui, on finira avec un chant. Puis, partez pas trop vite. Il y a du papier pour les imprimantes. Il y a des livres. Il y a même un magnétoscope avec plein de cassettes chrétiennes. Fait que vous partez avec le magnétoscope pour ramasser des cassettes chrétiennes. Je pense que Ben vous fait une vente de feu pour ça. Il faut que ça parte parce que c'est une vieille technologie, mais c'est des films chrétiens. Tu branches ça sur une TV, ça va marcher. Tu en as pour des heures à t'amuser. Là. Je pense que c'est 20 ou 25 piastres, Steph. Non, c'est la semaine prochaine. Oui, c'est le 11. On va faire ça la semaine prochaine. La Sainte-Sainte. En passant, la semaine prochaine, arrivez à 9h45, parce qu'on va suivre avec l'Église de Trois-Rivières. C'est pasteur Benoît Lavergne, c'est son dernier message. Là, il tombe à la retraite. Puis j'ai dit, ah, l'Église veut être avec vous pour ça. Là. Fait qu'on va être avec pasteur Benoît. Ça va être son dernier message. Ensuite, il est un an sabbatique. Puis... Ben, peut-être qu'il va venir en tant que retraité, venir faire un tour ici. T'sais, fait que, on a développé une belle amitié ces derniers temps. Alors, on finit avec un chant, puis après ça, n'oubliez pas d'aller voir ce qu'il y a sur les tables de l'autre côté.
sens qu'il est bien présent. J'entends sa voix dans le silence. Toujours là.